Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement et de compassion. Et c'est en bonne voie. Voilà. Nous voici, ô notre Père, tu es présent dans nos vies de lumière. Tu es présent dans nos ténèbres et rien ne peut nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Éternel notre Dieu, nous t'en prions, accueille ce matin ceux d'entre nous qui sont dans leur période heureuse, pleine de rire et de sourire. Accueille ceux qui sont pleins d'amertume, de rancœur et d'anxiété. Accueille ceux qui sont fatigués, qui ont besoin de repos. Ô Dieu qui accueille tous les hommes, qui nous accepte tous, nous sommes heureux de venir à toi car nous le savons et nous le croyons et nous l'annonçons. La grâce et la paix nous sont données. Je vous invite à vous lever pour chanter l'invocation. Donc le culte va, aujourd'hui on utilise, on retrouve avec plaisir j'espère, notre petit recueil. Les personnes qui ont du mal à se lever sont tout à fait autorisées à rester assises, bien sûr, et comme je les comprends. Et donc nous chantons l'invocation, page 20. Et si nous le pouvons, nous restons debout pour nous unir dans la louange du Seigneur. Ô Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour la fraternité vivante en Christ qui nous réunit ce matin, pour ta parole qui est lumière, nourriture et vie, pour ta force qui nous transforme, pour ces transformations que tu opères en nous, pour toutes les fois où, grâce à toi, nous devenons un peu meilleurs. Pour tous ceux que tu nous as donnés à aimer, que tu nous confies, pour qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Pour tous ceux qui recherchent la paix plutôt que le conflit et la guerre. Pour toutes les fois où tu nous aides à dépasser nos découragements et nos peurs. Sois la force qui nous libère et nous unit, l'eau de joie qui vient irriguer notre désert intérieur. Sois l'amour qui nous conduit sur tous les chemins de ton royaume. Amen. Et nous prenons dans le recueil de cantiques, selon l'affichage qui est parfait, le cantique donc 252. écoutons la loi que Dieu nous donne. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a faim et des vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de toute personne avisée. En toute occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et demande-lui de rendre droit tes chemins. Garde en mémoire ses instructions pour qu'elles ne s'effacent jamais de ton cœur. Amen. Unissons-nous, après avoir entendu cette volonté de Dieu qui paraît si simple à entendre et si difficile à accomplir, unissons-nous dans la prière d'humilité. Éternel notre Dieu, tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permettras pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs et nos angoisses, notre petite foi et notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil, nos préjugés, nos contradictions. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de l'espérance que tu formes pour nous. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous ne cessons de manquer nos rendez-vous avec notre vocation profonde, en ramenant notre vie, quelquefois, à n'être que l'ombre d'elle-même. Mais tu le sais, nous avons une vive douleur de cet état de fait. Nous le regrettons et nous faisons appel à ta grâce. Relève-nous, fais de nous des humains fraternels et responsables. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Amen. Et je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. C'est une parole certaine. L'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Et aujourd'hui encore, il vient nous libérer de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, de nos culpabilités. Il nous appelle à une vie nouvelle, faite du pardon de Dieu. Que ce pardon nous fasse vivre, qu'il soit notre force, notre joie, pour vivre et aimer à notre tour. Amen. Je vous propose aujourd'hui la confession de foi du pasteur Charles Wagner. Je suis désolée, je l'ai imprimée, mais pas, je l'ai remise, mais pas en exemplaire sans doute suffisant. Mais ceux qui peuvent, peuvent la suivre sur le texte. Ceux qui l'ont, pardon. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie. Au fond des cœurs endurcis, la bonté fraternelle. Au fond des cœurs errants et pleins d'ombre, la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter, ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi neuf, inédit, surprenant dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ses profondeurs où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur des routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté existait avant même que ne retentissent les mots « que la lumière soit ». Je crois qu'il demeurera à jamais. Et je l'appelle Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors aujourd'hui est un de nos cultes mensuels avec catéchisme. Et donc nous avons préparé les lectures avec les catéchumènes et avec mon collègue catéchète. Et donc nous allons les entendre.
Nous allons entendre deux textes qu'on appelle habituellement les béatitudes. L'un est extrait de l'Évangile selon Matthieu et l'autre de l'Évangile selon Luc. Ce matin, nous avons comparé ces deux textes et on parle de béatitude parce que dans l'Évangile selon Matthieu, chaque verset commence par l'adjectif « heureux », « makarios » en grec. Dans l'Évangile selon Luc, vous entendrez que c'est un peu différent. La première partie de ces versets commence par l'adjectif « heureux », mais ensuite, il y a toute une série de reprises avec l'adjectif « malheureux ». Il y a d'autres différences importantes entre ces deux textes. Dans l'évangile de Matthieu, la scène se passe sur une montagne, où Jésus est monté pour être tranquille avec ses disciples, pendant que la foule reste en bas. Donc, les paroles qu'il prononce sont destinées uniquement à ses disciples. Dans l'évangile selon Luc, la scène se passe dans la plaine. Jésus avec trois groupes de personnes à côté de lui. Il y a les disciples, les plus proches, qu'on appelle aussi les apôtres. Un peu plus loin, un grand nombre de disciples, c'est-à-dire des gens qui veulent suivre son enseignement. Et encore plus loin, On y trouve une foule venue d'un peu partout, pas seulement des Judéens, mais aussi des Tyrs et des Sidons.
Donc, ces étrangers viennent de Tyr et de Sidon. Ces deux villes sont sur la côte au nord d'Israël. Aujourd'hui, elles sont au Liban. À l'époque de Jésus, les personnes qui vivent là-bas ne sont pas juives. Donc, ces étrangers sont considérés comme des païens. Et pourtant, Luc nous dit qu'ils sont tous venus écouter Jésus. Apôtres, disciples juifs, étrangers païens, c'est peut-être une image qui annonce l'Église universelle, ouverte à tous les humains. Nous nous sommes aussi demandé pourquoi ces deux textes étaient différents. Est-ce que cela signifie qu'une des deux histoires n'est pas vraie? Ou les deux? Nous avons aussi réfléchi à l'image que ces deux textes nous donnent de Jésus. De qui est-ce qu'il parle, au fond, dans ces textes? À qui est-ce qu'il parle? Ces textes permettent de se poser beaucoup de questions, car ils nous disent le contraire de ce qu'on a l'habitude de penser. Donc, si on s'intéresse à Jésus, à ce qu'il a dit, on doit réfléchir à ses paroles qui annoncent le bonheur et le malheur, en essayant de comprendre ce qu'elles veulent dire pour nous aujourd'hui.
Et donc, il est bien nécessaire de prier avant d'entendre ces textes bibliques. La parole est plus grande que nous, plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons, c'est par elle que nous nous abaissons. Elle est refuge pour l'exilé et exil pour le suffisant. Comment ferais-tu sans elle pour prier? Comment ferais-tu pour pleurer, pour espérer, pour te justifier? Donne-toi à la parole et tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, le mouvement, l'élan qui te porte vers Dieu.
Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, nous lisons les versets 1 à 12. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis, il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Voilà. Et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 17 à 26. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un endroit tout plat où se trouvait une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient perturbés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les gens vous détestent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant, vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quel malheur pour vous lorsque le monde parle en bien de vous, C'est ainsi que leur père traitait les prophètes de mensonges.
Je vous propose de vous lever pour chanter avec moi les quatre premières strophes du psaume 107. Alors vous vous doutez bien que je n'ai pas de réponse à toutes ces questions que les jeunes nous ont posées à propos de ces deux textes. J'ai d'autres questions, des pistes de réflexion peut-être, à propos de ces deux béatitudes bien différentes, comme on l'a entendu, ne serait-ce que justement parce que celle de l'évangile de Luc se termine par des mots de colère. Une condamnation qui s'oppose point par point à la consolation des premiers versets. Quel malheur pour vous les riches, vous qui êtes rassasiés, vous qui riez maintenant, vous qui êtes bien vus et qui voulez le rester. Quand j'ai commencé à réfléchir à ces deux textes, en les comparant justement, dans un premier temps je me suis dit, bon, le Jésus des béatitudes de Matthieu, ça va. Il console sans condition. Je reviendrai sur ces consolations. Mais le Jésus des béatitudes de Luc, et on l'a entendu également au catéchisme tout à l'heure, il a un peu l'air d'un fou qui éructe, qui s'énerve. On pourrait presque penser que les premières paroles du Jésus des béatitudes de Luc, « Heureux êtes-vous », les quatre premiers versets, ils sont surtout là pour lui permettre ensuite d'introduire les quatre autres, malheureux êtes-vous, pour lui permettre de se laisser aller à la colère. Et cette colère, on pourrait avoir du mal à la comprendre. On a du mal à la comprendre. Oui, on a du mal à la comprendre, mais voilà. Le matin du jour où j'ai commencé à travailler sur ces textes, pas en même temps, parce que j'écoute pas la radio en même temps que je travaille sur les textes, mais j'ai écouté la radio le matin, France Inter. Et ce matin-là, le 14 février, comme ça vous aurez toutes les informations, même si je ne donne pas de nom, ce matin-là, un secrétaire d'État était invité à une émission matinale de France Inter pour parler des contenus haineux véhiculés par les réseaux sociaux et de la manière de combattre ce fléau. Comment combattre ce fléau ? Alors, comme d'habitude dans ces émissions, les journalistes, qui veulent toujours donner l'impression de tout maîtriser, n'arrêtaient pas de lui couper la parole. Et en plus, pour beaucoup de raisons qui mériteraient réflexion, mais ce n'est pas le lieu, donc je ne le ferai pas, mais on pouvait quand même avoir l'impression que ces journalistes lui parlaient avec une certaine condescendance. Mais notre secrétaire d'État en charge du numérique tenait bien le coup. Alors on peut se demander pourquoi quelqu'un qui consacre son énergie à servir son pays doit en plus être soumis à une telle pression. Pourquoi il est obligé de tenir le coup à la radio ? Mais en tout cas, il le faisait. Il se débrouillait, il supportait cette pression et il se débrouillait même plutôt bien. Jusqu'au moment... Le malheureux, jusqu'au moment où il a dit le mot interdit. Non, non, pas un gros mot, je vous rassure. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche des gros mots. Il a parlé de faire évoluer les mentalités et de remplacer la haine par l'amour. Erreur fatale, stupeur de l'intervieweuse. L'amour, ça fait pas un peu, je cite, ça fait pas un peu bisounours ? Et le malheureux, pris dans le conformisme des mentalités alors qu'il avait dit une vérité, une si belle vérité, eh bien le conformisme des mentalités est si fort qu'au lieu de lui balancer, c'était le moment de lui balancer une bonne dose de béatitude justement, quelque chose du genre « heureux les bisounours car ils hériteront la terre » ou bien « malheur à vous qui voulez faire plaisir à tout le monde en augmentant l'audimat ». Eh bien au lieu de ça, le pauvre, notre secrétaire d'État en charge du numérique s'est repris. Il a cherché à atténuer son propos, il a dit « non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais quand même, l'amour c'est pas mal ». C'est pas mal. Et d'un seul coup, peut-être parce que j'étais en train de commencer à y réfléchir, je me suis rendu compte que la problématique des béatitudes, on était en plein dedans. Et que les imprécations de Jésus, malheur à vous, à la fin de l'évangile, enfin des béatitudes dans l'évangile de Luc, eh bien, elles étaient plus que jamais d'actualité. Et pourtant, bien sûr, on n'est pas sûr que Jésus les ait dites. Ces phrases qui commencent par « malheur à vous » ou, selon les traductions, « quel malheur pour vous ». Alors, une petite information linguistique. En fait, c'est le mot « malheur », il a été ajouté dans les traductions de la Bible. À l'origine, alors, qu'est-ce que c'est l'origine ? L'origine serait des paroles prononcées par Jésus, donc en araméen, un dialecte de l'hébreu, transcrites en grec. Puisqu'on les a dans les évangiles en grec. Et donc, dans le texte grec, le mot c'est « why », qui transcrit « oi 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 ». Vous savez, le « oi 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 » juif, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose comme « oi 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 » pour vous, les riches, « oi 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 » les moqueurs, les bien-vus de la société. Ce n'est pas une malédiction, en aucun cas. C'est, à la rigueur, quelque chose qui leur annonce, comme l'a dit très bien un des jeunes quand on travaillait ce matin, qui leur annonce un risque, mais aussi la possibilité de s'en sortir. Voilà, ce que Jésus a vraiment dit, ben on ne le sait pas. En fait, on pense que les disciples avaient recueilli quelques-unes de ces paroles et que les rédacteurs des évangiles se sont servis ensuite de ce recueil. Ils ont pris dans ce recueil ce qui leur paraissait important et puis ils y ont ajouté d'autres choses en fonction de leurs propres besoins, des besoins de leur communauté parce que comme je l'ai déjà dit souvent, y compris ici je crois, S'il y a une chose dont mes quelques années de ministère m'ont persuadé, c'est que les rédacteurs des évangiles étaient d'abord les ministres de leur communauté et que quand ils écrivaient les évangiles, ils les écrivaient pour leur communauté et pour les aider. Pas seulement, bien sûr, mais d'abord pour ça. Et donc, on peut supposer, les spécialistes, j'ai cherché un petit peu en commençant à travailler ces textes, on peut supposer que les disciples avaient recueilli donc quelques-unes de ces paroles et que les premières sont authentiques et que les autres ont été ajoutées ou transformées justement par les rédacteurs des évangiles en fonction de la vie et des difficultés des communautés pour lesquelles ils écrivaient. Par exemple, justement, ces fameuses imprécations chez Luc à la fin du discours, eh bien, ça nous donne surtout une idée des difficultés de sa communauté, de tout ce qu'elle subissait, d'ironie, de mépris, de refus d'entraide, peut-être de la part des riches. Et puis, peut-être que ça ne nous fait pas de mal à nous d'entendre ces imprécations, parce que nous savons bien que dans une perspective économique mondiale, nous sommes tous ces personnes, elles s'adressent à nous, nous sommes tous des riches. Donc malheur à nous, non pas parce que nous sommes riches, mais parce que nous tenons notre consolation ou nous croyons la tenir, parce que nous sommes rassasiés. Malheur à nous, surtout quand nous nous trompons sur le véritable bonheur, sur la nature du bonheur. Mais revenons aux béatitudes, parce que ces imprécations, si on peut les appeler comme ça, si elles commencent par « oi, oi, oi », c'est déjà moins fort, mais ces imprécations sont aussi là en opposition aux vraies béatitudes, celles qui commencent par « heureux, makarios ». Et si elles sont là, c'est parce que Luc a conscience de l'incroyable nouveauté du message. Il a conscience qu'il s'agit d'une radicale inversion des valeurs. Et quelquefois, on connaît tellement bien ces phrases qu'on risquerait de passer à côté de leur force. On pourrait passer à côté du message si on ne lisait, j'ai commencé par le faire, que la fin du texte chez Luc, si on l'entendait que comme une expression de colère, même justifiée, contre le conformisme des mentalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on risquerait aussi de passer à côté du message si on y voyait seulement, et ça a été longtemps le cas, un appel à la résignation en vue d'une rémunération future, ultérieure, ultime, un peu comme si Jésus était en train de nous dire « Acceptez tout maintenant pour être heureux dans l'avenir, un avenir qui pourrait bien se rapprocher de ce qu'on appelle aussi la vie éternelle. » Eh bien, je crois que le message est encore plus fort et encore plus radical. Et du coup, les précisions peut-être ajoutées par Matthieu sont importantes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aime mieux souvent le texte de Matthieu. Il est plus universel, il parle à chacun et chacune de nous. Mais en réalité, dans les béatitudes, Jésus parle d'abord de lui-même. C'est lui qui est vraiment doux, c'est lui qui pleure, c'est lui qui a faim et soif de justice. Et c'est lui le vrai artisan de paix. Mais en parlant de lui, il parle de chacune et chacun d'entre nous. Et il n'annonce pas une consolation, il la donne. Il la donne en le disant. En fait, les béatitudes ont quelque chose de ce qu'on appelle en linguistique un discours performatif. Quand dire, c'est faire. Une béatitude affirme la consolation et en l'affirmant, la consolation est déjà présente. Elle n'est pas seulement future, elle est d'abord présente. Heureux dès maintenant, les pauvres en esprit. Il ne s'agit pas de valoriser l'ignorance ou le manque d'intelligence, loin de là, mais de se savoir pauvre dans la relation avec autrui comme dans la relation avec Dieu. Il s'agit de laisser de la place à Dieu, de laisser en nous se creuser le désir de Dieu. Et ce désir n'est pas toujours facile à vivre. Heureux maintenant, dès maintenant, ceux qui pleurent. Car, nous dit Jésus lui-même, je suis dès maintenant avec eux. Il ne s'agit pas d'une consolation mièvre ou illusoire sur vous pleurez maintenant et vous rirez plus tard. C'est effectivement ce qu'on pourrait comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Et on l'a longtemps interprété comme ça. Moi, je ne peux pas adhérer à cette interprétation-là. En revanche, je suis persuadée qu'il s'agit d'une consolation solide, durable. Pas une consolation qui valorise la souffrance ou les difficultés, mais une consolation dans laquelle Christ lui-même le dit, affirme sa présence au cœur même de ses souffrances et de ses difficultés. C'est une promesse et en même temps, c'est déjà la réalisation de cette promesse. Et puis, c'est une promesse pédagogique, car c'est une promesse qui nous transforme ou qui peut nous transformer, qui nous accompagne, qui nous soutient, nous engage. Et ce n'est pas un hasard si les membres de la communauté protestante des veilleurs s'engagent à dire les béatitudes une fois par jour. Parce que les béatitudes, peut-être, nous permettent tout simplement de devenir un peu meilleurs. Les béatitudes, quand nous savons les entendre, elles nous aident à devenir ce que nous avons tant de mal à être par nous-mêmes, ce que nous ne pourrions pas être par nous-mêmes. Les béatitudes, quand nous les lisons, au moment où nous les entendons, elles font de nous des pauvres en esprit, des assoiffés de justice, des êtres compatissants. Tout ce que nous avons tant de mal à trouver pour nous-mêmes et par nous-mêmes, et tout ce que nous avons encore plus presque de mal à accepter, que les autres soient acceptés de la part des autres en les traitant de bisounours quand ils parlent d'amour. Eh bien, tout cela, les béatitudes nous encouragent à le chercher. Et les béatitudes, oui, font de nous, peuvent faire de nous des artisans de paix et nous engagent à devenir veilleurs. Oui, nous devons veiller, comme nous le pouvons, à remplacer la haine par l'amour. Nous devons veiller à remplacer les discours d'exclusion par le dialogue et l'ouverture. Et oui, heureux les doux, heureux les compatissants, heureux les artisans de paix, ils ne seront pas appelés bisounours, ils seront appelés enfants de Dieu. c'est le moment des annonces. Eh bien, Brigitte, je te laisse la parole. Je continuerai après.
Oui, bonjour à tous. Donc, pour vous annoncer que j'ai encore des textes de nos conférences. Donc, je recommence. Pour vous annoncer que j'ai encore des textes de nos conférences pour la modique somme de 10 euros. Vous pouvez venir me voir à la fin du culte si vous en voulez. Donc il y a les trois conférences, les textes des trois conférences que nous avons eues, et également les textes des psaumes dans les versions de Théodore de Bèze ou Clément Marot que nous avons chantés pendant les liturgies des quatre dimanches.
Alors j'ai d'autres annonces. Tout d'abord, c'est juste une petite information. J'ai participé, vous savez ou vous ne savez pas que nous appartenons, notre église locale appartient à un consistoire, c'est-à-dire un groupe d'églises locales. On le retrouve dans Parole protestante, par exemple. Et nous avons régulièrement des réunions de consistoire pour faire le point, préparer des choses. Et à ce propos, je préparerai, j'ai une première rencontre jeudi 21 au matin avec la pasteur de l'oratoire pour préparer la liturgie du jeudi saint, qui aura une liturgie commune entre l'oratoire et le foyer de l'âme qui aura lieu ici. Si quelqu'un souhaite se joindre à nous pour préparer cette liturgie, il ou elle est le bienvenu, et sinon ce sera pour, on aura sûrement une deuxième rencontre. J'ai bien compris que les membres du conseil presbytéral avaient été extrêmement sollicités ces derniers temps, et donc ce sera comme vous le pourrez. D'ailleurs, je voudrais remercier tous ceux grâce à qui et toutes celles grâce à qui les cultes aux conférences ont été un tel succès. Tout à l'heure, on se disait, on s'est tellement habitué à ce qu'il y ait plus de 100 personnes dans le temple qu'il a l'air vide. Mais en fait, non, il ne l'est pas. Et dans cette réunion de consistoire, on m'a aussi demandé juste de faire passer une information qui appelle juste un petit peu à la vigilance, parce qu'il semblerait que chacune de nos églises est visitée par des groupes de communautés asiatiques dont on n'arrive pas très bien à comprendre l'origine ni les motivations, qu'on est évidemment très heureux d'accueillir, mais voilà, donc on est content qu'il soit là, et bien sûr notre église restera fidèle à elle-même. Donc pour les activités de cette semaine, je pense pouvoir faire l'ouverture demain, et je crois qu'il y aura l'accordéoniste de... nous aurons la présence de l'accordéoniste qui vient une fois par mois, en plus de peut-être l'orgue, je ne sais pas, parce que Fred n'est pas là, donc je ne sais pas s'il pourra venir ou pas. Mais en tout cas, moi, je ferai l'ouverture, il y aura de la musique et l'accordéon. Et peut-être, s'il y a des gens, on pourra lire un psaume. Qui sait ? Mardi soir, il y a la réunion, mardi 19, il y a la réunion du groupe œcuménique. Mercredi 20, il y a à la fois tu veux le dire Chantal ou bien d'accord, donc la réunion du bureau de l'entraide pour préparer l'assemblée générale de l'entraide, et pour ceux qui ne seront pas à cette réunion de bureau, vous êtes tous invités à la projection du film La Ronde. C'est un très beau film, très cynique, à la fois sympathique, ancien, humoristique, fin et assez dur, La Ronde de Max Ophüls, avec Daniel Gélin, jeune et magnifique, disons-le. Mais ce film peut donner lieu à débat. Et donc c'est mercredi soir, c'est le Ciné-Club, c'est Didier You qui l'anime, et il me fait savoir que non seulement il l'anime, donc la projection est à 20h et avant il y a un petit tonka pour ceux qui veulent, mais il me fait savoir qu'il aurait bien besoin de quelqu'un pour l'aider à installer les chaises. Apparemment, je n'avais pas compris que ça posait problème. Voilà, donc à partir de 19h, il sera sûrement au deuxième étage, mercredi. C'est un, je me permets, j'aime beaucoup ce film, enfin je l'aime et je ne l'aime pas, mais justement, vous verrez bien par vous-même, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ce qu'il faut en penser. Voilà, et donc jeudi matin, si jamais quelqu'un veut se joindre à moi pour travailler avec la pasteur de l'oratoire, bah, qu'elle vienne me voir à la fin du culte. Et je termine, donc samedi, non, bien sûr, n'oublions pas, samedi prochain, réunion du groupe Évangile et Liberté à 10h30. Et dimanche prochain, j'espère, parce que j'ai eu une réponse positive, mais depuis on n'a pas été en contact, mais normalement c'est confirmé par sa secrétaire, donc voilà. La rabbine Pauline Beib nous fera la gentillesse et le plaisir de nous faire la prédication. Donc je ne sais pas encore sur quoi. J'ai envoyé un mail pour savoir sur quel texte biblique elle comptait, elle voulait faire cette prédication pour le préparer, pour pouvoir le lire, mais je l'ai sans doute envoyé trop tard dans la semaine, donc la réponse je l'aurai seulement en début de semaine. Voilà. Donc, j'espère qu'on sera beaucoup pour la soutenir, l'encourager, la remercier. Et je suis vraiment très contente qu'elle ait accepté de venir. Je sais qu'elle vient souvent d'ailleurs. C'est pas voilà. Comment ? Régulièrement, d'accord. Voilà, je crois que j'ai fini avec les annonces. Là, il faudra qu'on fixe la prochaine date de caté. Non, il faudra qu'on fixe la prochaine date de caté. Partez pas. Et l'école biblique, la prochaine date d'école biblique, c'est le 10 mars. Bon, alors on a le temps. D'accord. Et donc, c'est le moment de l'offrande. Le joyeux moment de l'offrande. Nous allons chanter le psaume 67 pendant ce moment. Je vous invite à vous lever. Que Dieu nous bénisse et nous garde, et dont la joie est de nous donner, dans son amour qu'il nous regarde, et nous serons élevés. Tous ceux qui espèrent verront sur la Je vous invite à vous asseoir. Unissons-nous dans la prière fraternelle. Seigneur, merci pour ces moments où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. Merci pour ces moments où pour nous, d'une certaine façon, le royaume est déjà là. Nous aurions bien envie de planter nos tentes et de nous installer là, près de toi, loin de ceux qui souffrent et qui doutent. Mais toujours à nouveau, tu nous appelles et nous avons du mal à repartir. Tire-nous de notre confort et de nos conformismes pour nous remettre en chemin. Toi qui es venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer.
Et c'est en pensant à eux que nous te disons ensemble la prière de Jésus. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Seigneur Dieu, tu nous as réunis ce matin dans la joie de tes béatitudes. Accorde-nous encore et toujours de vivre tellement unis au Christ et les uns aux autres que ton Église porte du fruit pour que tous les humains puissent accueillir ta vie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Allons avec la bénédiction de Dieu Père, Fils et Esprit. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur accompagne votre route. Le Seigneur tourne vers vous sa face et vous donne sa paix. Amen.